Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous en sommes toujours dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Saint-Luc. Au verset 21, donc sur le polycopier qui contient les textes des Pères de l'Église pour les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 21. Donc je continue, nous avons commencé la circoncision de notre Seigneur. Verset 21 du chapitre 2 de Saint-Luc. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc j'avais déjà commencé à expliquer les raisons de la circoncision de notre Seigneur. Donc n'oublions pas que notre Seigneur demande une double circoncision, c'est-à-dire que la circoncision physique de notre Seigneur est le symbole d'une autre circoncision que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Le rite de la circoncision a disparu. C'est un rite actuellement réservé à l'Église juive, donc il serait tout à fait anormal et même pécamineux pour un catholique de se faire circoncire pour des raisons religieuses. Cependant, cette circoncision, même si elle a disparu pour l'Église catholique, cette circoncision est le symbole de la circoncision de l'âme. Circoncision du Christ est la figure de notre double circoncision, circoncision et résurrection, celle du corps et celle de l'âme. La circoncision, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'obligation de faire pénitence. Il faut circoncire son intelligence, circoncire sa volonté, circoncire son cœur, afin d'être maître, d'apprendre à dominer notre intelligence. N'oublions pas que la révolution a introduit une révolte. Le mot révolution vient du mot révolte en fait. Une révolution, c'est une révolte contre l'autorité légitime. Donc Dieu avait donné à Adam et Ève un don d'intégrité, c'est un don préternaturel, un don d'intégrité qui faisait qu'il y avait un ordre, si vous voulez, entre les différentes puissances de l'âme dans Adam et Ève. Ça veut dire que Dieu dominait, je veux dire que les passions chez Adam et Ève, avant le péché originel, étaient soumises à la volonté à l'intelligence et l'intelligence à Dieu. Dieu avait cependant donné à Adam et Ève un don très dangereux, à savoir le don de liberté. À cause du péché d'Adam et Ève, la révolte d'Adam et Ève, le péché originel, cela introduit la destruction de ce don d'intégrité qui est définitivement perdu pour Adam et Ève et pour tous ceux qui vont venir de la descendance d'Adam et Ève, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et donc nous n'avons plus ce don d'intégrité. À la place de l'intégrité, nous avons une révolte. Les passions se révoltent contre la volonté se révolte contre l'intelligence, et l'intelligence a tendance à se révolter contre Dieu. Donc il faut circoncire tout ça, c'est-à-dire faire pénitence pour nous obliger à contrôler nos passions. Donc la circoncision spirituelle représente la nécessité de la vertu de pénitence pour redevenir maître, réapprendre à devenir maître de nos passions. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a été circoncis d'abord pour prouver sa nature humaine, c'est dans le polycopie la page 21 en bas de la page, pour prouver sa nature humaine, c'est qu'il y a beaucoup d'hérétiques, j'ai déjà expliqué un peu la dernière fois, je repasse rapidement sur ce point, beaucoup d'hérétiques des premiers siècles niaient la nature humaine de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient scandalisés par le mystère de la Passion. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée de voir un Dieu qui acceptait de souffrir une bouchée comme celle de la Passion. Et donc, ne comprenant pas qu'il y avait en Dieu, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, une double nature, il était vraiment homme et vraiment Dieu, il est vraiment homme et vraiment Dieu, et donc comme il est vraiment homme, il a pu souffrir et il a voulu souffrir la boucherie de la Passion afin de nous faire comprendre l'importance du péché, les conséquences du péché. Et donc il a souffert la Passion pour réparer le mal infini qui avait été commis par le péché. Et donc, il veut prouver sa nature humaine par la circoncision contre les manichéens, Apollinaire et les Valentiniens, que j'ai expliqué. Donc, également, notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien montrer qu'il était venu accomplir la loi, il va vouloir sanctionner le rite institué par Dieu, pour pas donner l'impression qu'il y avait une contradiction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Donc le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Par contre, attention, l'Église de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament ne sont pas les mêmes Églises. L'Église de l'Ancien Testament, ça c'est très important à comprendre, j'ai déjà expliqué, mais j'insiste parce qu'il y a beaucoup de confusion sur nos fidèles. L'Église de l'Ancien Testament est l'Église catholique d'avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il était parfaitement légitime de suivre l'Église de l'Ancien Testament, l'Église de la loi mosaïque, si vous voulez, parce que cela correspondait à un temps de préparation pour arriver au Messie. Lorsque le Messie est arrivé, avec la mort du Messie sur la croix, le jour du Vendredi Saint, le rideau du Temple se sépare, se coupe en deux, se déchire en deux, pour bien montrer que cette religion de l'Ancien Testament est devenue mortifère. Donc actuellement, vouloir suivre la religion de l'Ancien Testament, c'est une injure contre Dieu. C'est une injure contre Dieu parce que cela veut dire que je nie l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et que donc j'attends toujours le Messie. Si j'attends toujours le Messie, c'est que le Messie n'est pas arrivé. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est présenté comme étant le Messie, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, eh bien, était en fait un faux prophète. Donc attention à ça. Notre Seigneur a également accepté la circoncision pour bien montrer qu'il était de la race d'Abraham. C'était le signe de la descendance d'Abraham, pour être accepté par les Juifs, et aussi pour montrer l'exemple de la vertu d'obéissance. Donc il a voulu non seulement être circoncis, de la même façon, il a accepté de suivre les lois mosaïques, par exemple, même pour sa très sainte mère. On voit très bien après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus était encore un petit bébé, eh bien, Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie vont aller payer respect aux coutumes judaïques et donc vont aller faire circoncire l'enfant au temple de Jérusalem et également payer les taxes qui étaient demandées à l'époque. Et la très sainte Vierge Marie a également voulu suivre les lois de purification judaïque alors qu'elle était parfaitement pure elle-même. Elle a voulu donner le bon exemple. Et bien son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a voulu donner l'exemple de la vertu d'obéissance. Il n'y a pas de fidélité sans obéissance. L'obéissance est à la base de la fidélité. Ayant pris la chair du péché sur nous, notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité, et donc il est identique à nous en toute chose sauf le péché. Il a pris donc pour nous, sur lui, la chair du péché. Il n'a donc pas voulu rejeter le remède de purification. La circoncision étant le remède de purification voulu pour les hommes de l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donc être circoncis. Il a également, nous disent les pères, et voulu être circoncis pour cacher au démon son caractère divin. Le démon n'a jamais été certain de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait des doutes, disent les pères de l'Église, mais il n'en avait pas la certitude. Il n'avait pas la certitude de la divinité de notre Seigneur. Si le démon avait su de façon certaine, et avait compris de façon certaine, sans équivoque, que notre Seigneur Jésus-Christ était le Messie promis, il n'aurait jamais fait crucifier. Parce qu'il savait très bien Étant un ange, il avait conservé l'intelligence angélique. Attention, le démon savait très bien que la venue du Messie signifiait la fin de son royaume. Et donc, il aurait empêché la passion. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu, par cette circoncision, cacher son caractère divin et faire croire au démon qu'il était un homme comme les autres. Autre point expliqué par les pères, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être circoncis pour mettre fin à la circoncision charnelle et la remplacer par la circoncision spirituelle. Il a donc pris l'ombre pour préparer la lumière. Donc la circoncision du corps indique la circoncision de l'âme. De même que la circoncision du corps était nécessaire selon la loi juive, de même la circoncision de l'âme est nécessaire pour pouvoir soumettre, obliger la volonté à suivre l'intelligence et l'intelligence à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. La révolution, c'est ça, c'est un combat entre notre volonté d'un côté et la volonté du bon Dieu de l'autre. Les passions qui veulent partir dans tous les sens, qui refusent d'être supervisées par la volonté et l'intelligence. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, a également accepté la circoncision pour commencer à souffrir. Par cette souffrance, il commence déjà sa fonction de rédempteur et de sauveur. Les premières gouttes de sang que notre Seigneur Jésus-Christ a offertes à son Père en réparation pour nos péchés sont les gouttes de sang répandues pendant la circoncision. Certes, on n'est pas encore au temps de la rédemption, mais il commence déjà, toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ a été une vie de souffrance. Et il montre l'exemple dès le début de cette vie terrestre. Passons à la page 22, sur le polycopier. Donc Dieu unit dans le Christ l'humble et le sublime, l'humain et le divin, le poison et l'antidote. Le chemin de la gloire passe par les humiliations, celui qui s'humilie sera exalté. Celui qui veut venir après moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ, première chose à faire, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. N'oubliez pas que c'est ce que disent les pères, que tout passe par la vertu d'obéissance. Pourquoi ? Parce que la vertu d'obéissance, qui naît de la vertu d'humilité, va permettre la fidélité. Pas d'obéissance, s'il n'y a pas d'humilité, pas d'humilité, pas d'obéissance, et pas d'obéissance, pas de fidélité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va concentrer, si vous voulez, en lui-même, dans sa personne, qui est divine, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais ayant voulu que cette personne soit en quelque sorte non pas un mélange, mais et une double nature, une nature humaine et une nature divine. Il est parfaitement homme pour pouvoir souffrir, parfaitement Dieu pour pouvoir nous racheter par le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois quelque chose de fini, quelque chose d'infini. À la fois quelque chose d'humain, à la fois quelque chose de divin. À la fois quelque chose de créé, quelque chose d'incréé. L'humanité de notre Seigneur, je vous l'ai déjà expliqué souvent, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est créée, le corps, l'âme, le sang, de notre Seigneur Jésus-Christ sont des choses créées. Au moment du mystère de l'incarnation, le 25 mars, au moment du fiat de notre Seigneur Vierge Marie, le corps, l'âme, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ont été créés de toutes pièces. Mais il y a aussi du divin à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce corps, ce sang, cette âme sont unis à la divinité. Il est parfaitement Dieu sans cesser d'être homme. Donc il y a à la fois l'humble et le sublime, à la fois la chose finie, le corps, et la chose infinie, l'âme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le poison et l'antidote. Il est le poison dans le sens qui prend notre nature humaine, viciée par le péché originel. Mais attention, la nature humaine que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre est la même nature humaine que nous avons sans le péché. Donc il prend en quelque sorte sur lui les conséquences de nos bêtises à nous. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu prendre une nature humaine viciée par le péché. C'est pour cela qu'il a voulu naître d'une Vierge parfaitement pure qui n'a pas été contaminée par le péché originel. La très sainte Vierge Marie et l'Immaculée Conception. Parce qu'il y a présenté l'antidote. Et il n'y a pas de valeur de salut en notre Seigneur Jésus-Christ sans passer par les humiliations. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu passer par les humiliations, soyons pas étonnés si nous aussi nous devons passer par l'humilité. On voit très bien qu'il y a une espèce de double, de système de balance. Si vous voulez, plus le Christ s'humilie, plus son Père va l'exalter. Plus nous acceptons d'obéir, plus nous devenons grands. Plus l'homme se rapetisse par l'humilité, plus, et par l'obéissance, plus il devient grand devant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, plus le Christ s'humilie, plus son Père l'exalte. Les Pères donnent trois points. Donc, le Christ prend l'apparence du péché par la circoncision, mais Dieu le nomme Jésus, c'est-à-dire le Sauveur qui guérit du péché. Il prend l'apparence du péché. Pour cela que le démon a pensé que le Christ était un homme comme les autres. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre et pas deviner que cet homme était en fait un homme comme les autres, dans le sens que notre Seigneur Jésus-Christ avait parfaitement la nature humaine, mais un homme différent des autres parce qu'il n'était pas marqué par la tache du péché originel. Deuxième point, le Christ naît dans la misère, mais les anges, les rois mages et l'étoile manifestent cette divinité. Dès sa naissance, il va montrer qu'il est le Christ roi. Quand il naît parmi nous, en prenant notre humanité, il ne cesse pas d'être notre Dieu, notre roi. Donc il est à la fois roi et Dieu, mais il est aussi souverain prêtre. Et donc les anges, les rois mages, l'étoile vont manifester sa divinité. Immédiatement après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut dire que la création tout entière vient reconnaître cette divinité. D'abord les créatures irrationnelles, c'est l'étoile. L'étoile mystérieuse, l'étoile miraculeuse qui va venir manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, puis les anges, puis les bergers, puis les trois rois mages. Et les pères font remarquer qu'au moment de la crucifixion, le vendredi saint, les êtres irrationnels comme le soleil et la lune vont s'obscurcir, les rochers vont se fendre pour témoigner justement de la mort de leur créateur. Donc les cœurs des hommes ne se fendent pas à la vue de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les créatures matérielles marquent l'autorité de Dieu sur elles. Et donc il va y avoir cette éclipse de soleil, cette obscurité, ces rochers qui vont se fendre, ces tombeaux qui vont s'ouvrir, ces morts de l'Ancien Testament qui vont ressusciter pour témoigner de la mort de leur Créateur. Verset 22 du chapitre 2 de Saint Luc, « Quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur, tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles ou deux petits de colombes. Donc c'est les versets 22, 23 et 24 du chapitre 2 de Saint-Luc. Voyons un petit peu ce que disent les pères. L'enfant premier-né était offert à Dieu. C'était la coutume juive, la loi de Moïse. Tout enfant premier-né devait être conduit au temple et racheté à Dieu. Et ont été rachetés, la tradition voulait qu'ils soient rachetés 5 cycles d'argent, c'est-à-dire 5 pièces d'argent, au moins pour les gens qui avaient les moyens. Et ces 5 cycles d'argent représentent, disent les pères, les 5 plaies du Christ. C'est le prix par lequel il a racheté le monde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a racheté le monde par le sacrifice de son humanité, par l'acceptation de l'union de cette humanité avec sa divinité. Donc, ce rachat par les 5 cycles représente la passion. Et la passion, toute la passion est résumée dans les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 plaies des mains, les 2 plaies des pieds et la plaie du côté. Seul le Fils de Dieu devait ouvrir le sein mystérieux de la Sainte Église Vierge pour engendrer tous les peuples à Dieu. Le Seigneur, donc de riche qu'il était, a daigné se faire pauvre, afin de nous faire entrer par sa pauvreté au contact avec sa richesse, avec ses richesses. Rappelez-vous l'expression de saint Augustin, que je cite très souvent, « Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. » Bon, c'est une phrase très belle, mais en même temps un peu dangereuse, si elle n'est pas comprise et bien expliquée. Mais il ne faut pas tomber dans le panthéisme. Donc l'homme ne devient pas Dieu, mais l'homme va pouvoir rattraper ce qui a été perdu par l'acceptation du mystère de l'incarnation. Dieu devient homme pour que l'homme puisse retrouver l'échelle qui monte au ciel, les barreaux de l'échelle, si vous voulez, qui avaient été coupés au moment du péché d'Adam et Ève. Donc par son incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, remet les barreaux qui manquaient, il y avait des barreaux qui manquaient, qui avaient été coupés par le démon pour empêcher l'homme de monter vers Dieu. Donc le démon a coupé ces barreaux, on ne peut plus passer, parce qu'il manque des barreaux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa naissance d'abord, puis sa mort sur la croix, par le mystère de l'incarnation qui mène au mystère de la rédemption, remet les barreaux en place. Et donc il va permettre aux hommes qui veulent monter de reprendre l'échelle qui monte vers le ciel. Celui qui s'humilie sera exalté. Mais pour pouvoir utiliser les bienfaits de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une condition, l'humilité. Encore une fois, l'humilité mène à l'obéissance mène mène à la fidélité. Mais s'il n'y a pas d'humilité, s'il y a l'orgueil, s'il y a la désobéissance, ben il n'y a plus de façon, plus de manière, plus de moyen pour nous d'être fidèles. Donc si l'humilité mène à l'obéissance et l'obéissance mène à la fidélité, l'orgueil mène toujours à la désobéissance et la désobéissance mène toujours à l'infidélité. L'infidélité. On le voit très bien dans les différents textes, surtout dans Saint Paul, c'est très clair. Il y a ce fameux texte de Saint Paul aux Corinthiens, c'est la première épître aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 10. Je vous lis ce texte qui montre bien justement ce lien entre la révolte et ce qui provoque la révolte, le péché. Mes frères, dit Saint Paul, ne nous abandonnons pas aux mauvais désirs comme l'ont fait nos pères dans le désert. Ne devenez pas non plus idolâtres comme certains d'entre eux dont il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et il se leva pour danser. Ne commettons pas de fornication comme plusieurs le firent parmi eux, et il en périt 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Toutes ces choses leur sont arrivées en figure. Elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être ferme prenne garde de ne pas tomber. C'était l'épître du 9e dimanche après la Pentecôte. On voit très bien ici comment Saint Paul explique ce mélange détonnant, trop boire, trop manger, tous les péchés de la chair, et qui entraîne l'idolâtrie. Et on voit, tout est dans ce texte. Ne devenez pas non plus idolâtre. Ça, c'est l'idolâtrie, l'adoration d'un faux dieu, le pire des péchés. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Tous les péchés contre la tempérance au niveau de la nourriture, trop manger, la boisson, trop boire. Et puis, tous les péchés de la chair, manque de tempérance au niveau de la chair, concupiscence de la chair, ne commettons pas de fornication, comme plusieurs le firent parmi eux, il en périt 23 000 en un seul jour. Et comme il est important, mes bien chers frères, de comprendre ces choses-là. Et pour bien nous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour lutter contre cette corruption de la chair, il a voulu naître d'une Vierge Immaculée. Il a voulu naître d'une Vierge Immaculée et il a voulu que son Église soit vierge. La virginité de notre Seigneur Jésus-Christ, la virginité de sa mère, vont permettre aussi la virginité du corps mystique du Christ, à savoir l'Immaculée Conception. L'Église catholique. Voilà le texte. Seul le Fils de Dieu devait ouvrir le sein mystérieux de la Sainte Église Vierge pour engendrer tous les peuples de Dieu à Dieu. C'est-à-dire que de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ va vouloir naître d'une Vierge Immaculée, eh bien il a voulu aussi que son Église, qui n'est rien d'autre, l'Église catholique n'est rien d'autre que le corps mystique du Christ, il a voulu que de son sein, c'est-à-dire du Sacré-Cœur ouvert sur la croix, sorte cette Église qui doit être vierge comme sa mère et qui va donc engendrer dans la virginité tous les peuples à Dieu. Et de la même façon que la très sainte Vierge Marie va engendrer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour sauver les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, va faire sortir de son cœur sacré par le percement, l'ouverture du Sacré-Cœur par la lance de Saint-Longin, faire naître en quelque sorte l'Église catholique, son corps mystique. On peut dire que l'Église catholique est née véritablement au Vendredi Saint, au pied de la croix, juste au moment de l'offrande du Sacré-Cœur. Le Seigneur, de riche qu'il était, a daigné se faire pauvre, afin de nous faire entrer par sa pauvreté en contact avec sa richesse, avec ses richesses. Donc, de la même façon que si nous acceptons de nous unir à l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette humilité va nous permettre de détruire notre orgueil. Si nous unissons à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ à sa mère, à son Père putatif, eh bien cela va nous permettre à nous aussi de lutter contre la désobéissance, conséquence de l'orgueil. Et à ce moment-là, cela va nous permettre d'être fidèles pour lutter contre l'infidélité, contre l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Donc cette purification j'ai déjà expliqué, surtout la purification de la circoncision. Cette purification représente la pénitence. Et Notre-Dame a fait pénitence pour nous comme son fils. Pourtant, elle n'était pas tenue de faire cette purification puisqu'elle était Immaculée Conception. Elle a voulu nous donner l'exemple justement de l'humilité, l'exemple de l'obéissance, l'exemple de l'adoration, l'adoration à son divin fils. Alors, il nous faut maintenant expliquer ce texte du verset 23 et du verset 24. Tout enfant mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur et pour offrir son sacrifice selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles, deux petites colombes. Donc, chacun offrait une offrande volontaire au temple en fonction de sa richesse personnelle. Alors, ceux qui avaient des moyens financiers offraient 5 cycles d'argent, j'ai déjà expliqué. Mais ceux qui n'avaient rien allaient offrir simplement 2 tourterelles, 2 petites colombes, les animaux qui étaient utilisés pour les sacrifices. Et les pères expliquent qu'un temps viendra où notre Seigneur Jésus-Christ ne sera plus offert au temple de Jérusalem dans les bras de Siméon, mais hors de la cité, sur les bras de la croix. Il ne sera plus racheté par le sang d'une victime, mais rachètera les autres par son propre sang. Donc l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ au temple de Jérusalem au 2 février représente le rachat de tous les hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme Dieu, a voulu être racheté en suivant les préceptes de la loi mosaïque. Pour bien nous faire comprendre que nous devons, puisque nous avons péché, nous devons nous aussi accepter d'être rachetés. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est racheté par l'offrande de ses 2 tourterelles, apportées par sa mère, par son père putatif, Saint Joseph, pour bien nous faire comprendre qu'il veut que nous aussi nous participions à notre rachat. Il nous faut donc, pour participer à ce rachat, rouvrir les portes du paradis qui étaient fermées pour nous depuis le péché d'Adam et Ève, il faut donc la vertu d'humilité, la vertu d'obéissance et l'adoration du vrai Dieu. Celui qui s'humilie sera exalté. Dans la mesure où j'accepte cette humilité, à ce moment-là, j'ouvre ma porte, la porte de mon âme au Sacré-Cœur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir pénétrer dans mon âme. Donc, j'aime bien cette comparaison des pères très belle. Donc, de même que notre Seigneur Jésus-Christ va être reçu dans les bras de Siméon, il va être reçu plus tard sur les bras de la croix. Donc, le sang que notre Seigneur Jésus-Christ va verser dans sa circoncision représente le sang qu'il va verser sur la croix. Lorsque je serai élevé de terre, dit-il, j'attirerai tout à moi. Alors, moralement parlant, ces 2 tourterelles, ces 2 petites colombes qui ont été offertes par la Sainte Famille au temple de Jérusalem, le pigeon ou la tourterelle représente les murmures de componction du pénitent pour expier ses péchés. C'est-à-dire que la tourterelle roucoule tout le temps, constamment, une espèce de murmure constant qui va représenter les murmures de componction. La compassion, c'est ça. La componction, la compassion, c'est à peu près la même chose. C'est l'acceptation de souffrir en réparation pour nos péchés. Notre-Dame est Notre-Dame de compassion parce qu'elle accepte de souffrir en union avec les souffrances de son Fils. Eh bien, il m'a demandé de faire la même chose. La Sainte Vierge n'était pas tenue de souffrir puisqu'elle est Immaculée Conception. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant parfaitement innocent, n'était pas tenu de souffrir. Nous sommes coupables puisque nous avons péché. Et à cause de nos péchés, nous sommes tenus. À cause de nos péchés d'orgueil, nos péchés de désobéissance, nos péchés d'idolâtrie, bien nous sommes tenus de faire pénitence afin de racheter les conséquences de nos péchés. Et donc ce roucoulement constant de la tourterelle, du pigeon, surtout la tourterelle, représente donc les murmures de componction, les murmures par lesquels j'accepte de faire pénitence en réparation pour mes péchés. Voilà ce que disent les pères. La tourterelle est de tous les oiseaux celui dont le chant est le plus fréquent et le plus continu. Et la colombe est un animal plein de douceur. Or, c'est sous ces 2 qualités que notre Seigneur s'est présenté à nous. Toute sa vie était le modèle de la plus parfaite douceur. Et comme la tourterelle, il a attiré à lui tout l'univers en remplissant son jardin de ses célestes mélodies. Une très belle comparaison, très poétique là. De même que la tourterelle va roucouler à longueur de journée. Ben, nous aussi, il faut qu'on soit comme la tourterelle. C'est-à-dire qu'on offre nos souffrances de la journée, nos prières, nos œuvres, nos souffrances, nos difficultés toute la journée, les offrir comme un roucoulement constant pendant toute la journée. On offre tout ce qu'on est, on offre toutes ses misères, on offre même ses péchés en réparation pour les offenses que nous avons faites contre notre Seigneur Jésus-Christ. La colombe, au contraire, disent les pères, est le symbole de la simplicité. La tourterelle, c'est la pureté. La colombe, c'est la simplicité. Donc, la tourterelle, c'est le symbole de la chasteté. La colombe, de la simplicité. Donc, si la colombe vient à perdre sa compagne, elle n'en cherche pas une autre. Dieu demande de nous deux choses, la chasteté et la douceur, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Donc, là, les anciens pensaient, je pense que c'est vrai, que les colombes, les tourterelles, étaient appairées à vie. Quand il y avait un couple qui se formait, c'était pour toute la vie. On voit ça chez beaucoup d'oiseaux. Ils sont pour toute la vie. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'avais visité, dans l'île du Sud, le sanctuaire des albatros. Des oiseaux de mer extraordinaires qui ont plus de 3 mètres d'envergure et qui viennent nicher au sud de la Nouvelle-Zélande pour préparer leur nid. Ils utilisent toujours le même nid. Ils nichent, ils vont pondre un œuf, la femelle va pondre un œuf, et ensuite ils vont élever le petit qui vient de naître, et vont rester jusqu'à ce que le petit puisse s'envoler. Et puis ensuite, ils se séparent, l'époux ou l'épouse, c'est-à-dire l'albatros mâle, l'albatros femelle, vont partir et vont tourner pendant un an autour de l'Antarctique, en suivant les vents, pratiquement tout le temps en vol, à tel point qu'ils peuvent même bloquer leurs ailes pour dormir en volant, pour être préservés des prédateurs. Et puis chacun pour soi, et le couple va être séparé pendant toute l'année. Et puis au bout d'un an, ils vont revenir sur l'île, exactement au même nid, au même endroit. Et la personne qui nous faisait visiter le centre nous disait, c'est extraordinaire parce qu'on voit en général le mâle qui arrive le premier. Et une demi-heure après, il y a la femelle qui débarque, toujours la même. La même femelle avec laquelle il va refaire un nid, il va arranger son nid ancien, et refaire un œuf, et rééduquer, pour une nouvelle génération, rééduquer un petit oisillon. Et donc ils sont à des milliers de kilomètres de distance, et ils arrivent pratiquement ensemble une demi-heure près. Vous voyez ? Eh bien, cela représente justement l'oiseau, qui est utilisé ici comme exemple par notre Seigneur Jésus-Christ, la tourterelle, représente cette fidélité. Hein, ce roucoulement constant, ce n'est pas simplement le roucoulement de la pénitence, mais aussi le symbole de la fidélité. Donc, rappelez-vous ce que disent les pères, la colombe est le symbole de la simplicité, tourterelle, la chasteté. Donc on retrouve ici ces deux vertus fondamentales. Donc la vertu de chasteté, la vertu de simplicité. La vertu de simplicité, c'est à la fois l'humilité et l'obéissance. Donc Dieu demande de nous deux choses, la chasteté, la douceur, pas simplement du corps, mais aussi de l'âme. Cette douceur, cette componction, devons être comme notre Sainte Vierge Marie, des aides de componction, de compassion au pied de la croix pour rattraper nos péchés. Et donc, les pères expliquent que ces deux oiseaux, donc le pigeon et la tourterelle, ou la colombe et la tourterelle, par l'habitude qu'ils ont de gémir, sont l'emblème des pieux gémissements des saints pendant la vie présente. Ils diffèrent cependant ce que la tourterelle recherche la solitude, tandis que la colombe aime à voler en compagnie. Ainsi, l'une représente plus particulièrement les larmes secrètes de l'oraison, et l'autre les assemblées publiques de l'Église. Certains saints disent que l'un représente la vie contemplative et l'autre la vie active. Donc la colombe qui aime à voler en compagnie représente la vie active, alors que la tourterelle qui au contraire recherche la solitude représente la vie contemplative. Mais c'est ce qui est expliqué juste après en bas de la page 22. La colombe qui aime à voler par troupe représente le grand nombre de ceux qui mènent la vie active, celles qui vivent dans la compagnie d'autres hommes. La tourterelle, qui recherche la solitude, représente les âmes qui gravissent les hauteurs de la vie contemplative. Et les pères font remarquer que la forme de vie idéale, c'est un mélange des deux. Contrairement à ce qu'on croit, la forme de vie la plus parfaite n'est pas la forme de vie contemplative, mais un mélange entre la vie active et la vie contemplative. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Ces deux offrandes, donc, sont également agréables à Dieu. Aussi, avec dessein que Saint-Luc ne précise pas si on a offert au Seigneur des tourterelles et des petites colombes, pour ne point paraître donner la préférence à l'un de ces deux genres de vie, mais nous enseigner que nous devions suivre l'un et l'autre. Donc il faut être à la fois colombe, à la fois tourterelle, à la fois la colombe qui est symbole de la vie active, et à la fois la tourterelle qui est symbole de la vie contemplative. Le bon Dieu ne demande pas d'être des purs contemplatifs, c'est beaucoup trop dangereux. L'Église a toujours demandé, même aux plus grands contemplatifs, d'avoir une partie de vie active. Les moines de l'ancien temps, on voit très bien dans le désert de l'Égypte, par exemple, les moines d'Égypte, 3e, 4e siècle, qui faisaient des pénitences incroyables, devaient en même temps avoir une vie active. Il ne fallait pas qu'ils soient simplement dans leur raison toute la journée. Ils devaient avoir une vie active. Et donc, ils occupaient leurs mains en faisant en général des tapis avec des feuilles de palmier. Ils tressaient des tapis et qu'ils vendaient pour le monastère, pour nourrir les moines, afin d'avoir une vie active. Une vie contemplative sans la protection de la vie active, c'est trop dangereux. Une vie active sans la protection de la vie contemplative, c'est trop dangereux. Il faut les deux. Il faut, si vous voulez, se rappeler qu'on est corps et âme. Au corps correspond la vie active, mais à l'âme correspond la vie contemplative, donc il faut les deux choses. Donc c'est très important aujourd'hui, on vit dans un monde complètement actif, et donc il faut garder une vie contemplative, et plus notre vie est active, plus elle doit être contrebalancée par la vie contemplative. La tourterelle, dit saint Cyrille, aime à faire entendre ses gémissements. La colombe est un oiseau plein de douceur. En se présentant dans son sacrifice sous ses figures, le Créateur et Maître de toutes choses nous rappelle son extrême douceur, et un charme de cette parole qui, semblable au chant de la tourterelle, a rempli de ses échos Savine, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui croient en lui. Il y a là une allusion au texte du Cantique des Cantiques. La voix de la tourterelle s'est fait entendre en notre terre. La vigne est entrée en fleur. Donc, et notre Seigneur va souvent utiliser ces symboles de la colombe, de la tourterelle, de la vigne qui va donner du fruit pour bien expliquer la nécessité d'avoir justement cette union de la vie active et de la vie contemplative. Un chrétien, c'est quelqu'un qui unit en son âme une vie contemplative et une vie active. Et si on n'a que la contemplation, c'est dangereux, on risque de tomber dans l'angélisme. Si on n'a que l'action, on tombe dans l'activisme ou le volontarisme, il faut les deux. Ici, il y a une citation de saint Thomas d'Aquin. « La tourterelle aime à faire entendre ses roucoulements, figurant ainsi la prédication des vérités de salut, du salut et de la confession de la foi. Demeurant toujours fidèle au compagnon qu'elle a choisi, dit saint Fulgence, elle apprend aux chrétiens à conserver à Dieu sa foi intacte de toute compromission adultère. » Donc la fidélité qui existe entre le mâle et la femelle chez la colombe, chez la tourterelle, représente la fidélité d'une âme par rapport à Dieu. L'adultère, ici, dont parlent les pères, c'est l'adultère du péché. À chaque fois que je commets une faute grave, je commets l'adultère spirituellement parce que je me coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Je deviens infidèle, de la même façon, si vous voulez, que tant que le mâle et la femelle sont ensemble, ils sont vivants, ils sont ensemble, parce qu'ils sont appairés pour la vie entière, cela représente justement l'union qui doit exister dans une âme, entre la grâce et la nature, l'état de grâce doit être permanent en nous, et tant qu'il y a cette permanence de l'état de grâce dans notre âme, eh bien nous sommes fidèles. Mais malheureusement, si nous avons le malheur de commettre un péché mortel, cela va couper le cordon ombilical avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons tomber immédiatement dans l'infidélité. Donc l'infidélité, non pas les pères, représente le péché. C'est l'infidélité du péché. Et donc il faut prendre modèle sur justement la fidélité qui a toujours existé entre notre Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. C'est pour cela qu'ils étaient tous les deux, pas simplement parfaitement fidèles, mais parfaitement vierges. Saint Joseph et notre Sainte Vierge Marie, étaient tous les deux liés par un vœu de chasteté. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu naître de parents humains, parce que il est vraiment homme, même si Saint Joseph n'a été que le père putatif. Notre Seigneur Jésus-Christ est apparu dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie sans l'utilisation d'une semence humaine. Cependant, il a voulu avoir un père et une mère qui soient vierges pour nous faire comprendre l'importance de la vertu de pureté. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, il s'est fait homme pour nous apprendre, pour recréer en nous cette pureté qui a été détruite par le péché. Aimant son colombier, la société de ses pareils, donc... Alors je reprends un texte ici de Saint Fulgence. Demeurant toujours fidèle au compagnon qu'elle a choisi, la tourterelle apprend aux chrétiens à conserver à Dieu sa foi intacte de toute compromission adultère. Aimant son colombier, la société de ses pareils, la tourterelle figure le rattachement du chrétien à l'Église. Donc la tourterelle représente aussi l'Église. L'Église qui est chaste, l'Église qui est vierge. Dieu a voulu une Église vierge. Et dans cette virginité de l'Église, il y a aussi la fidélité qui est contenu, si vous voulez. L'Église est vierge et cette virginité de l'Église est éternelle. Et donc, l'Église ne change pas. L'Église ne change jamais. L'enseignement de l'Église catholique ne change pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fondé cette Église, est lui-même dit Dieu étant Dieu, ne change pas. Donc, la tourterelle représente le rattachement du chrétien à l'Église, donc le rattachement du chrétien à notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme doit être unie à l'Église, l'âme doit être unie à son Dieu, de la même façon que le mâle et la femelle sont unis chez les tourterelles ou les colombes de façon permanente, jusqu'à la fin de leur vie. Donc cette offrande, ici qui était donnée, donc l'offrande selon la loi du Seigneur de deux tourterelles, deux petites colombes, cette offrande, disent les pères, figurait la perfection de Jésus-Christ et de ses membres. La tourterelle, donc, qui se plaît dans la solitude, figurait la prière secrète, la colombe, la prière des fidèles réunis. Donc la tourterelle symbole, encore une fois, la prière secrète, c'est-à-dire la vie méditative, la vie contemplative. Et la colombe, au contraire, la prière des fidèles réunis, la vie active. Vous voyez ? Il faut bien comprendre que plus notre vie est active, plus il faut prier, plus il faut avoir une âme contemplative. Et c'est ça le drame. Et dans le monde moderne, on est de plus en plus actif. Et à cause de cette action, on est de moins en moins contemplatif. Donc on se détruit soi-même, c'est une espèce de suicide. Donc on mettait le prêtre à aller offrir ensuite cette colombe, cette tourterelle comme sacrifice. C'était encore un symbole, le symbole de celui qui, dans un sacrifice de suavité, s'est offert à son Père pour nous réconcilier avec la loi. Donc le sacrifice de ces animaux représente le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Phrase des pères, divin premier-né, soit que vous soyez racheté pour être à moi dans votre enfance, soit que vous soyez vendu pour être encore plus à moi à la fin de votre vie, je veux me racheter pour vous de ce siècle malin. Je veux me vendre pour vous et me livrer aux emplois de la charité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ montre bien qu'il a voulu naître d'une vierge pour pouvoir donner l'Église vierge au monde. Et nous devons nous aussi retrouver cette pureté si nous voulons être des dignes fils adoptifs de notre Seigneur Jésus-Christ, fils adoptifs de la très sainte Vierge Marie. Et on ne peut pas se livrer aux emplois de la charité sans avoir cette vertu d'obéissance, cette vertu d'humilité et cette vertu de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, l'obéissance contre la désobéissance, l'humilité contre l'orgueil et la fidélité contre l'idolâtrie. Il y a une autre mère qui porte et jusqu'à la fin des siècles portera dans le cœur le glaive annoncé par Siméon. Rappelez-vous la prophétie de Siméon qui a dit à la Sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. C'est l'Église, dit Saint Bède le Vénérable, l'Église qui voit les méchants contredire le signe de la foi, qui voit les âmes tomber en grand nombre dans l'incrédulité, qui voit les pensées secrètes de tant de cœurs se traduire en tant de vices, et pendant que croît le bon grain, croître aussi l'ivraie, et quelquefois d'une façon si touffue qu'elle étouffe le bon grain. Donc c'est pour cela que Siméon a annoncé que notre Seigneur Jésus-Christ serait un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection. Je vous ai déjà expliqué, on ne peut pas être neutre devant notre Seigneur Jésus-Christ. Soit on le suit, soit on le rejette. Nous allons voir tout cela avec la prophétie de Siméon qui arrive maintenant. Donc, un texte ici de saint Augustin, au milieu de la page 23, qu'autour de cet enfant, dit saint Augustin, toutes les classes de l'humanité se réunissent dans la joie, que les vierges se réjouissent, car une vierge a enfanté le Christ, que les veuves se réjouissent, parce que Anne, la veuve, a connu le Christ, que les femmes mariées se réjouissent, parce qu'Élisabeth a prophétisé le Christ avant sa naissance. Enfant, vous trouvez en face d'un enfant, vous et lui, votre pureté. Vieillard, un vieillard vous précède auprès du Christ. Époux, considérez cet époux qui annonce Zacharie louant Dieu. Oui, donc ici, ces textes des pères expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Oui, c'est important de comprendre ces choses-là parce que aujourd'hui on attend tout le temps les modernistes qui nous parlent de l'église des pauvres, l'église des pauvres, l'église des pauvres, l'église des migrants, comme s'il y avait qu'eux. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Il est venu pour les riches et les pauvres, les bien portants, les malades. Il est venu pour les migrants, les non-migrants. Il est venu pour tout le monde. Tous doivent trouver notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est l'unique porte de salut pour les riches, pour les pauvres, pour les migrants, pour les non-migrants. Et maintenant, concluent les pères, que cet enfant grandissent dans vos cœurs. Vous avez commencé à croire, il est né en vous. Mais le Christ n'est pas demeuré à l'état d'enfant. Il a grandi sans jamais connaître le déclin. Il faut que votre foi grandisse, qu'elle soit forte et que jamais ne connaisse la vieillesse. Et ainsi, vous appartiendrez au Christ. On dit que dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, il recule. On ne peut pas rester neutre. Donc on ne peut pas non plus rester stable. Il faut constamment aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on aime aujourd'hui plus notre Seigneur Jésus-Christ qu'hier. Il faut qu'il y ait plus de charité en nous aujourd'hui qu'hier. C'est une question qu'on peut se poser chaque soir au moment où on fait son examen de conscience. Est-ce que j'aime ce soir plus notre Seigneur Jésus-Christ que je l'aimais ce matin? Est-ce que j'aime, après 20 ans de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, 40 ans, 60 ans, 80 ans de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que j'aime plus notre Seigneur Jésus-Christ que le jour où j'ai été baptisé? Les époux doivent se poser la même question. Est-ce qu'après 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans de mariage, est-ce que j'aime plus mon épouse, est-ce que j'aime plus mon époux que le jour de mon mariage? Eh bien, il faut la même chose. Le mariage entre époux représente le mariage spirituel. C'est ici les allusions nettes au mariage spirituel. Donc, c'est cette nécessité de l'esprit contemplatif qui doit venir, en quelque sorte, s'unir à l'esprit de la vie active représente le mariage spirituel. On doit suivre notre Seigneur Jésus-Christ et dans la vie active et dans la vie contemplative. C'est pour ça qu'il faut, en quelque sorte, que nos muscles soient fixés sur une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale qui permet la vie active, c'est la vie contemplative. Et plus la vie active est importante, plus la vie contemplative doit être proportionnelle à la vie active. Il faut que votre foi donc grandisse, qu'elle soit forte, qu'elle ne connaisse pas la vieillesse, et ainsi vous appartiendrez au Christ. Alors, je vais commencer la prophétie de Siméon, qui est certainement un des passages les plus importants de l'Évangile. Page 23, en bas, Saint-Luc, chapitre 2, versets 25 à 28. Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme nommé appelé Siméon. Cet homme était juste et craignant Dieu. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, notre Seigneur. Le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit de Dieu, et comme les parents de l'enfant Jésus l'apportaient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses mains, bénit Dieu, et dit. Donc c'est le Nunc Dimittis. Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller en paix selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. Et là va se dérouler ce passage extraordinaire qui est certainement un des plus importants de l'Évangile, la prophétie de Siméon. Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Et s'adressant à la Sainte Vierge, il lui dit « Un glaive vous percera l'âme, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. » Donc expliquer ce passage qui est très important. Donc, qui est ce Siméon? Donc, on est en bas de la page 23. Ce Siméon, certains pères pensaient qu'il était prêtre de l'Ancien Testament, fils de Hillel, père de Gamaliel, au pied duquel saint Paul a pris la loi. Et selon une tradition, Siméon était aveugle et retrouva la vue au contact avec l'enfant Jésus. Dès qu'il prit l'enfant Jésus, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses bras le Sauveur du monde. Donc au moment où il a touché l'enfant Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle et a guéri la cécité du prêtre Siméon. Cependant, cette tradition semble un peu improbable à mon avis, parce qu'il est bien précisé dans l'évangile que le premier miracle qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le miracle du changement d'eau en vin à Cana, à Galilée. Et donc, il n'aurait pas fait de miracle avant. Bon, je pense que je l'ai quand même noté, parce que c'est une tradition précisée par certains pères. Mais ça me semble en opposition avec l'enseignement de l'Église sur d'autres points. Heureux, disent les pères, heureux mille fois celui qui, avant de voir la dissolution de son corps par la mort, se sera efforcé de voir auparavant des yeux du cœur le Christ du Seigneur, en transportant par avance, comme Siméon et Anne, sa vie dans la céleste Jérusalem, en fréquentant la maison de Dieu, et en suivant les exemples des saints dans lesquels Dieu a fixé sa demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Siméon et Anne, la prophétesse, qui viennent vivre sur le parvis du temple, représente les âmes qui doivent être suffisamment amoureuses de Dieu pour passer le plus de temps possible devant le Saint-Sacrement. Et ces deux personnes, Siméon et Anne, sont tous les deux les vieillards. Les vieillards ont du temps. Souvent, le monde moderne dit que les vieillards, ça sert à rien. Pour ça qu'ils cherchent à les supprimer aujourd'hui, en 2020, c'est très clair avec les histoires du coronavirus. Comment le gouvernement cherche littéralement à se débarrasser, c'est clair, de toutes les personnes âgées. Eh bien, les personnes âgées, leur rôle, c'est d'être au temple. Elles ont du temps. Les jeunes, souvent, n'ont pas assez de temps, parce qu'eux, ils ont les occupations de la vie active. Et les personnes âgées, au contraire, ont passé les activités de la vie active, et donc ont du temps pour la contemplation. Les vieilles grand-mères, les vieux grands-pères, ça sert à ça. Ça sert à prier pour ceux qui n'ont pas le temps de prier. Et si le monde va si mal, c'est précisément parce que les vieillards ne passent plus de temps à prier. Rappelez-vous ces vieilles grand-mères de nos enfances qui passaient leur temps assis sur une chaise dans la maison à prier. Elles avaient le chapelet entre les doigts et elles passaient leur temps à prier. J'ai connu des personnes comme ça qui passaient, c'était pas un chapelet, deux chapelets qu'elles disaient, c'était des dizaines de chapelets dans la journée. Elles priaient constamment et elles priaient pour leurs enfants et petits-enfants. Et souvent, on a eu des conversions extraordinaires, tout simplement parce que, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y avait une vieille grand-mère qui a prié, qui a offert ses misères, son arthrose, son arthrite et toutes ses difficultés avec l'âge qui grandissait chaque jour. Eh bien, elle a offert ses misères, elle a offert ses souffrances, elle a offert tout ça pour la conversion de ses enfants, ses petits-enfants. Et grâce à ces prières de nos grand-mères ou de nos grands-pères, eh bien, il y en a qui sont convertis. Vous voyez? La justice des œuvres légales, figurée par les mains et par les bras, qui vont recevoir l'enfant Jésus chez Siméon, devait faire place à la grâce humble, mais efficace et salutaire de la foi évangélique. Ce siècle accablé, décrépit de vieillesse, allait revenir à l'enfance et à l'innocence de la vie chrétienne. Donc ici, si vous voulez, le Père parle du vieillard, qui représente la jeunesse éternelle. Le vieillard qui prie est éternellement jeune. C'est pour ça qu'il est dit que ce siècle va revenir de l'enfance à l'innocence de la vie chrétienne. Donc le vieillard qui prie représente la jeunesse éternelle de l'Église catholique. L'Église catholique est éternelle dans le sens que l'Église catholique est éternellement jeune. C'est pour ça que l'Église catholique n'a nullement, en aucune raison, en aucune façon, n'a besoin d'être s'adapter au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à elle. L'Église ne vieillit pas. De la même façon que la très sainte Vierge Marie ne vieillissait pas puisqu'elle n'avait pas les conséquences du péché originel. Le vieillissement, l'âge, la mort sont des conséquences du péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie n'avaient pas le péché originel. Donc strictement parlant, ils auraient dû ne jamais mourir, ne jamais souffrir, ne jamais avoir de peine physique parce que justement ils n'avaient pas le péché originel. Mais ils ont voulu imiter l'homme pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre sur lui toutes les conséquences de l'humanité, y compris la souffrance, y compris la mort. Notre Sainte Vierge Marie a voulu faire pareil parce qu'elle était mère du Christ. Donc il faut savoir se transporter, disent les pères, en avance, comme Siméon et Anne, transporter notre vie dans la céleste Jérusalem en fréquentant la maison de Dieu. C'est-à-dire, si je pratique je vis dans la Jérusalem d'ici-bas. Jérusalem d'ici-bas, ici, c'est l'Église catholique. Je vous ai déjà expliqué que le mot Jérusalem a plusieurs sens. Soit au sens historique, au sens matériel, c'est la ville de Jérusalem. Mais ça peut aussi représenter, au sens allégorique, l'Église catholique. Au sens moral, ça représente l'âme en état de grâce. Au sens anagogique, ça représente le paradis. Eh bien, cette Jérusalem représente la Jérusalem céleste. Donc celui qui se transporte déjà en esprit dans la maison de Dieu, dans la Jérusalem céleste, va avoir le paradis déjà dans son cœur ici-bas. Une âme en état de grâce, un petit bout de paradis sur la terre. Donc l'âme contemplative, l'âme qui se garde en état de grâce, même si elle est obligée de faire de l'action, parce qu'on ne peut pas avoir de vie sur la terre sans avoir une partie de vie active, ben l'âme contemplative a déjà le paradis en elle. Donc son corps travaille dans le monde, mais son âme est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous passons à la page 24. Donc voilà les premiers mots du Nunc Dimittis, ce psaume. Maintenant, Seigneur, vous laissez votre serviteur s'en aller en paix selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous. Les versets 29 et 30 du chapitre 2 de Saint-Luc, en haut de la page 24, qu'on appelle le Nunc Dimittis. C'est un chant qu'on chante tous les soirs. Quand on a l'office en commun, on en chante le chant des complis, la prière du soir du prêtre, la prière du soir de l'église. Et dans ces complis, à la fin des complis, on a le chant du Nunc Dimittis. Seigneur, maintenant, laissez votre serviteur s'en aller en paix selon votre parole. Eh bien, cela nous rappelle que la nuit qui arrive est le symbole du repos éternel. Il y a deux façons de passer la nuit, ou dans le péché ou dans la gloire. La nuit de la gloire, c'est le paradis, la nuit du péché, c'est l'enfer. Donc l'Église chante le Nunc Dimittis accompli pour nous obliger à penser à la mort et nous pousser au désir de quitter ce monde qui passe pour obtenir la vraie vie du ciel. Donc c'est le passage, le symbole du passage du temps à l'éternité. Le passage du temps à l'éternité, c'est la mort. Donc soit on passe du temps à une éternité bienheureuse pour ceux qui meurent en état de grâce, soit on passe du temps à l'éternité malheureuse pour ceux qui, hélas, meurent en état de péché mortel. Mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour votre peuple. C'est le symbole de la lumière, notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est ça la fête de la Chandeleur. Donc le cierge qu'on utilise pour la Chandeleur symbolise notre foi au Christ, la lumière des nations, lui demandant la lumière de sa grâce et dans l'autre monde la lumière de sa joie et de sa gloire. Donc la procession de la Chandeleur représente justement la procession de l'âme qui va passer toute sa vie ici-bas sur la terre pour aller jusqu'au paradis. Hein? Il faut donc avoir cette lampe qui brûle, ce cierge qui brûle en notre cœur, ce cierge qui brûle entre cœurs, c'est la foi illuminée par la charité. Un cierge éteint, c'est une foi qui n'est plus alimentée par la charité, ce qu'on appelle une foi informe. La foi informe, quelqu'un qui vit dans le péché mortel, a encore, s'il est baptisé, il a encore la foi, mais c'est une foi qui n'est plus formée par la charité. Donc il a un cierge, mais qui est éteint. Ça sert à rien, un cierge éteint. C'est comme une lampe à huile qui n'a plus d'huile, et bien la mèche ne sert à rien parce qu'elle n'est plus alimentée par l'huile. Et bien, c'est la même chose pour nous, donc il faut considérer que nous avons besoin de rallumer, d'allumer, de protéger cette lampe qui doit brûler, nous portons un cierge à nous de le protéger pour qu'il ne s'éteigne pas au premier coup de vent. Donc ce cierge, symbolise la lumière des nations, notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Et nous devons être, nous, lumière du monde aussi, à la suite de la lumière du monde qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au moment de la fête de Pâques, quand il y a la fête de la lumière, les prières de la vigile de Pâques, le soir du samedi saint, la nuit pascale, eh bien, on va bénir puis allumer le cierge pascal qui représente notre Seigneur Jésus-Christ avec ses cinq plaies. C'est pour ça qu'il y a cinq grains d'encens sur le cierge pascal, et ensuite on prend la lumière du cierge pascal pour la transmettre d'abord au clergé, puis ensuite du clergé aux fidèles, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle, et la prochaine fois, Dieu aidant, nous expliquerons la prophétie de Siméon. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.